Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sont.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements dans des
pays.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, la radio que vous pouvez écouter donc sur PFM 99.9 et aussi en podcast sur le site de Micro Rebelle. Pour ce mois-ci, je suis avec Lily.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Simon.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de pas mal de choses différentes. Par rapport à ce qui va arriver, ce qui est passé déjà. Et on commence comme d'habitude par notre petite rubrique agenda. Lily, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce mois-ci ?
Eh ben, l'agenda de ce mois-ci, en fait, surtout du mois de mars, on vous donne quelques infos sur des événements auxquels vous pourriez participer. On vous propose d'aller voir une pièce de théâtre à Arras le 10 mars. À 20h au Théâtre d'Arras. Donc, c'est une soirée qui est mise en place par le CIDFF, c'est-à-dire le Centre d'information aux droits des femmes et des familles. Donc le CIDFF d'Arras qui vous propose une pièce de théâtre pendant ce temps Simone Veil, une pièce de théâtre montée par Trinidad. Donc c'est le 10 mars au Théâtre d'Arras, je l'ai déjà dit, à 20h. Voilà. Et également une autre initiative alors du groupe local du planning familial à Angres. Donc on a un groupe local à Angres qui met en place un bal folk et qui vous invite au bal folk le 7 mars à la salle des fêtes de Angres à partir de 19h30. Les portes s'ouvrent à 19h30 et le bal commencera à 20h30 avec le groupe Arrière-Pays qui se propose de revisiter les danses et musiques folk traditionnel, mais quand même remodernisé, modernisé. et alors de l'Irlande, de la Bretagne, en passant par le Québec et encore d'autres pays. Je pense qu'ils ont un peu fait de fusion dans tout ça, ça risque d'être sympa. Et c'est l'idée qu'on peut se réunir de manière festive autour de cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et d'ailleurs, ce groupe local de Angres a mis en place une autre initiative qui n'est plus du coup ouverte au public parce que voilà, c'était sous réservation, donc toutes les places sont prises. Mais on avait envie de promouvoir un peu ce type d'action parce que le 14 mars, les femmes de Angres étaient invitées à partir avec le groupe local du planning familial une journée. Entre femmes et entre femmes à partir de 14 ans, c'est-à-dire que des femmes qui seraient mères également et qui auraient des enfants, mais des filles à partir de 14 ans pourraient être accompagnées par leurs filles, mais les enfants plus jeunes devraient être gardés. C'est vraiment l'idée que ces femmes mères puissent avoir une journée à elles. Qui leur soit dédié complètement. Et pour
sans conjoint, sans enfant dans les pattes, à s'occuper,
à quoi que ce soit. Pour qu'elles puissent s'occuper uniquement d'elles-mêmes, pour une journée culturelle, donc avec une participation de 2 euros, pour aller à Paris et faire plusieurs visites. Si je ne m'abuse, là, j'ai plus tout le programme en tête, mais je sais qu'il y a une visite au Louvre, il y a la possibilité de voir la Tour Eiffel, des grands lieux.
Il n'y aurait pas l'Arc de Triomphe aussi dans l'histoire,
peut-être,
je crois.
Alors là, je m'excuse de ne pas avoir révisé ça avant, mais en tout cas, c'est quand même une journée où l'idée, c'est on est entre femmes et entre mères, mais pour une fois, on n'a personne d'autre à gérer. Et on remercie donc notamment la municipalité qui a appuyé l'initiative pour financer le bus. Parce qu'évidemment, pour que les participantes n'aient que 2 euros à charge, il a bien fallu qu'il y ait une participation institutionnelle de mise. Et on avait envie d'en parler aujourd'hui dans l'émission du gang pour se dire que ça pourrait être On fait un gros clin d'œil, ça se voit pas à la radio, mais c'est quand même un gros clin d'œil radiophonique. On pourrait glisser ça à l'oreille d'autres municipalités, d'autres institutions. Voilà, ce serait quelque chose qui pourrait être dupliqué pour permettre à des femmes d'avoir une journée, de se rendre compte de ce que ça peut vouloir dire que de n'avoir que soi-même à gérer. Ça paraît peut-être peu évident pour des chefs de famille masculins ou autres qui ont peut-être plus de temps pour eux. Une femme du Pas-de-Calais, mère de famille, a rarement une journée consacrée à elle toute seule. Et on trouvait que c'était quand même un peu mieux comme initiative que tout un tas d'inepties qu'on voit fleurir chaque année un peu avant mars, autour du 8 mars, des journées de la femme. Hein, donc voilà, donc là j'embraye sur un coup de gueule, du coup, si vous me permettez.
Vas-y, juste avant que tu enchaînes, vas-y. Moi je rappelle juste que le 6 mars, il y a le fameux bar LGBT tous les premiers vendredis du mois. Donc le 6 mars, rendez-vous au local du Panic Familial à 45 rue François Gauthier à Lens pour un petit moment convivial entre personnes LGBT ou les autres qui ont besoin de poser des questions ou quoi que ce soit. Vas-y. Donc notre thème, un de nos thèmes en tout cas d'aujourd'hui, c'est la fameuse journée du 8 mars. Mais qu'est-ce qui pose problème en cette journée du 8 mars ?
Eh bien écoute, alors de manière personnelle, moi ce qui me pose problème, c'est que voilà, depuis une dizaine de jours, quand je sors de chez moi, il y a un rond-point qui n'est pas très loin, et donc c'est l'occasion, les ronds-points. Alors c'est vrai que depuis un an, les ronds-points servent à beaucoup d'autres choses également, mais un rond-point, ça peut servir à diffuser de l'info, effectivement.
Pas qu'à être de couleur jaune, c'est ça.
Voilà, ouais, c'est bien que ça puisse être des lieux de rencontre, c'était plutôt cool, hein, mais là, il y a aussi de l'info qui continue d'être diffusée, et donc souvent c'est de l'info, effectivement, festive ou politique quand c'est de l'affichage effectivement au niveau des campagnes, et puis aussi c'est du marketing, et là c'est la deuxième année où je vais être obligée de vivre tous les jours jusqu'au 9 mars avec de l'affichage qui se trompe et qui dévoie la journée du 8 mars en un événement capitaliste et consumériste et sexiste. C'est-à-dire que depuis quelque temps, je sors et donc j'ai un gros panneau qui m'affiche « Journée de la femme et du bien-être ». Voilà, bim. Alors déjà, premier écueil, « Journée de la femme ». Ça n'existe pas, la journée de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Parce que la femme n'existe pas. Il y a une pluralité de femmes. Mmh. Et on ne peut pas imaginer qu'à un moment, on puisse dessiner une seule et même figure de femme qui correspondrait à toutes les femmes du monde. Ce n'est pas possible. Donc c'est bien une journée, la journée des femmes, pourquoi pas. Et du bien-être. Alors j'ai envie de dire, bon, bah, c'est bien le bien-être. Hein. Je ne vais pas dire c'est nul et tout. Hein. Mais donc pourquoi cantonner ça, entre guillemets, aux femmes ? Est-ce que les hommes n'ont pas le droit au bien-être également ? Et j'ai envie de dire, bon, sur ce panneau, on ne voit pas le détail des activités, mais on sent bien que c'est quelque chose de lié autour de l'esthétisme, du paraître, voilà, du maquillage. Alors il y a aussi juste en dessous la tête d'une femme dans une position lascive, bouche entrouverte, maquillée, les yeux maquillés, la bouche très maquillée, en attente de quelque chose, voilà, et ce qui est donc du coup, moi, pour moi, là, insupportable. D'une, pour l'image des femmes que ça continue de renvoyer. Et on pensait avoir un peu avancé là-dessus, et en fait, on voit que dans certains lieux, non, on n'avance pas. De deux, oui, on a un peu ras-le-bol de toutes ces journées, effectivement, qui ne sont qu'un outil de capitalisme. Et quand on nous fait croire qu'il faut toujours croître, évidemment, il faut des outils pour croître, parce qu'il faut qu'on continue d'acheter, sinon les entreprises vont pas à croître, et donc ouais. On achète, donc il faut pousser les gens à acheter. Donc là, voilà, après la fête des mères, après les fêtes de Noël, qui sont plus du tout une fête religieuse, mais une fête de consommation, maintenant, le 8 mars devient aussi ça, il y a des promos sur des fers à repasser ou sur le dernier robot ménager. Donc on voit bien à quoi ça fait référence, cette journée intitulée de la femme pour eux, évidemment. Du coup, on peut leur filer un aspirateur à moins 50%, effectivement.
Comme ça, pourront mieux travailler les autres jours de l'année.
Voilà, c'est ça. Et puis du coup, je voulais en profiter pour revenir sur les origines de cette journée du 8 mars.
Bah alors dis-nous tout, d'où ça vient en fait, cette journée ?
Et notamment, si on se penche sur les origines et quand on voit la polémique historique qu'il y a déjà autour de l'origine du 8 mars, on s'aperçoit que c'est davantage une journée politique qu'une journée esthétique. Voilà, clairement. Elle est, on va dire, elle commence à avoir une renommée, cette journée du 8 mars, plutôt dans les années 60-70, où ce mouvement qui s'en réempare, le mouvement féministe qui s'en réempare, promeut le fait qu'il s'agirait du 8 mars 1857, une journée où des ouvrières du textile de New York se rassemblent et font une première manifestation pour leurs droits. Et ça, cette idée-là, elle perdure. Elle peut perdurer aussi dans certains milieux. Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'historiquement, l'instauration d'une journée des femmes a été mise en place plutôt, alors toujours dans les milieux ouvriers, plutôt dans les milieux dits socialistes. Alors je remets dans le contexte, hein, socialisme de début 20e siècle, donc le milieu socialiste et communiste autour d'entre 1900 et 1920, pour mobiliser les femmes justement dans la lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Donc c'est notamment une très grande militante, Clara Zetkin, qui décide d'instaurer une date, notamment pour lutter contre les mouvements féminins et féministes de l'époque, qui étaient vus plutôt comme quelque chose de bourgeois. Il y avait vraiment une tension à l'époque entre les mouvements des femmes, les mouvements de lutte des femmes populaires, ouvrières, qui se battaient aux côtés des ouvriers pour l'amélioration des conditions de travail, et des femmes d'un milieu, d'une classe supérieure, bourgeois, qui, elles, se battaient, par exemple, pour le droit de vote, également. Et donc, selon les méthodes de lutte, effectivement, il y a eu des tensions entre ces groupes de femmes de classes différentes, et donc différentes revendications de ces journées de lutte. Donc il y a une première journée qui est mise en place le 8 mars 1910, et puis donc promue par Clara Zetkin, et une de celles qui va le mieux fonctionner, le mieux prendre, c'est le 8 mars 1917, où là, effectivement, ce sont des femmes russes, des ouvrières russes qui débrayent et manifestent, effectivement, et démarrent en fait la révolution russe. Donc on est bien sur une journée qui est politique et une journée qui est sur l'histoire des droits, en fait, pour montrer les différentes oppressions qui pouvaient être faites aux femmes début 20e, donc fin 19e, début 20e, entre l'interdiction de droit de vote, donc le fait de renier aux femmes une égale citoyenneté dans les sociétés européennes. Hein, c'était un mouvement assez large. Il y avait une idée d'internationalisation, pas facile à dire, ça, des mouvements de lutte, hein, que ce soit des mouvements ouvriers, comme là pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y avait des rencontres régulières entre des militantes, des ouvrières et syndicalistes françaises, anglaises, allemandes, polonaises, russes. Il y avait vraiment des échanges riches et de proximité à l'époque. Et donc, il était beaucoup plus question de différence de classe dans les mouvements féministes que des choses très ethno-centrées ou nationalo-centrées, par exemple. Mais on voit bien que là, entre nécessairement le début de ces journées, donc 1910-1917, et ce qui peut en être fait maintenant dans les médias ou dans certaines villes, et moi je déplore, donc moi je vis dans une ville où la municipalité a une réelle couleur politique et un projet politique. Donc c'est une municipalité communiste et je suis absolument affligée de voir qu'une entreprise privée à but lucratif puisse se permettre de récupérer le 8 mars avec le logo avec l'appui de la municipalité, parce qu'il y a le logo dessus, pour afficher une journée qui a un but mercantile, un unique but mercantile, et récupérer la journée du 8 mars à des fins consuméristes et mercantiles.
Mais est-ce que le problème au final ne vient pas donc de la municipalité qui, pour eux, peut-être font la contraction que font beaucoup de gens, que c'est la journée des femmes ou de la femme seulement, et pas, comme tu disais, la journée de lutte pour le droit des femmes.
Ah bah si, si, clairement. C'est... Je pense que c'est... Quand je parle d'ineptie, c'est bien parce que je me rends compte que à l'intérieur de... Alors, comment on s'organise une municipalité, comment on peut faire une demande d'événement à une municipalité, on a des rencontres, on va peut-être à une permanence de l'élu de la jointe ou de l'adjoint. Alors, je dis l'adjointe parce que si c'est culture et fête ou truc familial, mais ça peut être une femme. Hein, voilà, je ne me fais pas trop d'illusions. mais on a peut-être une première rencontre où on a un courrier, on explique le projet. Il y a le projet reçoit l'aval, il y a peut-être un coup de pouce, on laisse la salle peut-être en location, je ne sais pas ce qui s'est tramé et tout derrière, mais puisqu'il y a le logo sur les grandes bâches qui en font la pub, c'est bien qu'il y a l'aval de la municipalité. Mmh. Donc oui, moi, le couple qui gère cette entreprise, bon, bah, je me rends compte qu'ils n'ont pas déconstruit quoi que ce soit sur ce que c'est que la femme, les femmes, le 8 mars. Mais bon, ils taffent, ils ont leur boulot à faire, qu'ils fassent quelque chose de mercantile, parce que c'est leur boulot, ils font vivre leur entreprise, ça ne me choque pas. Ce qui me gêne, effectivement, c'est que la municipalité ait laissé passer ça et que les gens qui composent les différents services techniques ou autres, ou différents secrétariats d'adjoints et tout, ne sachent plus ce que c'est que le 8 mars pour que ça puisse passer à ce point-là. Et c'est ça qui est affligeant, effectivement. Je ne suis pas en train de chercher nécessairement un responsable, mais effectivement, il y a une perte de connaissances et de savoir populaire sur ces luttes sociales qui m'affligent, du coup. Mais je ne manquerai pas de fête. J'ai déjà écrit, n'est-ce pas? Mais je ne manquerai pas d'aller à leur rencontre pour leur dire non, ce n'est pas possible, là, c'est la dernière année, l'année prochaine, on ne fait pas ça. Voilà, ça n'empêche pas que ce salon du bien-être ait lieu. Enfin, il n'y a aucun souci. Mais qu'il ne puisse pas être affiché dans le cadre du 8 mars. Mais même si, à la limite, ils avaient envie de mettre salon de la femme et du bien-être, bon, on n'est pas où. J'en sais rien, on n'est pas en dictature, on n'est pas au goulag, on n'est pas à quoi que ce soit.
Mais
et
pas
tout.
Focaliser
sur le 8 mars, pas floquer de l'écusson de la municipalité. Enfin, c'est pas possible. C'est pas... Ou alors, ils se revendiquent de dire, bah ouais, après tout, on n'en a rien à cirer l'origine de cette journée-là. On n'en a rien à cirer du droit des femmes. Et nous, on trouve que les femmes, elles seraient intéressantes uniquement si elles sont belles. Les moches, on s'en fout. Donc, dans ces cas-là, on sera vraiment sur un clivage politique et on retournera au combat et on luttera contre eux. Voilà. Mais là, je pense qu'il y a une pédagogie à remettre en place. Mais bon. C'est bon, sachant que toutes les personnes qui composent un peu la mairie ont plus de 50 ans, voire plus de 60, je me dis, ils ont quand même mené des combats, ils savent ce que c'est, et je comprends pas ce qui s'est passé là pour qu'il y ait cette déperdition là-dessus et que j'entende effectivement dans différents lieux, conseils de classe, quand il y a des représentants de la mairie, puis aujourd'hui c'est la journée de la femme, la parenthèse, mais
on vous tiendra au courant l'année prochaine de savoir est-ce que cette journée sera reconduite ou pas, est-ce que notre chère Lily aura gagné son combat ou est-ce qu'au contraire elle sera demandée à quitter la ville définitivement. Donc on vous dira ça très bientôt. un autre petit coup de gueule qu'on voulait passer aujourd'hui par rapport à toujours une fête qui est devenue très commerciale et qui s'est déroulée la semaine dernière, c'est notre fameux 14 février.
Ouais, 14 février, qu'est-ce que ça t'inspire du coup, tiens Simon, le 14 février, dis-moi, ce qui est de manière populaire, qu'est-ce que c'est que le 14 février?
Moi, pour ma part, le 14 février, j'en apporte pas beaucoup d'importance particulièrement. Je pense que c'est une fête qui est beaucoup commerciale, qui a été très retournée par les sociétés pour vendre des produits. Après, je pense que ça applique à tous ceux qui veulent faire plaisir à leur conjoint ou leur conjointe pour faire un petit cadeau. Ça permet d'avoir une pensée pour les personnes à qui n'ont pas tous les jours un petit quelque chose à offrir. Ça permet aussi quand même d'avoir une petite idée. Tiens, j'ai pensé aujourd'hui à faire plaisir.
C'est supposé être la fête de l'amour, je pense. Après, moi, je vais pas vérifier qui c'était Valentin, en fait.
Je suis en train de rechercher.
C'est un saint, je suppose que c'est quand même un truc... c'est supposé être un calendrier religieux.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, lui, pour qu'on colle après une espèce de fête de l'amour et puis... et que ce soit effectivement dévoyé, en fait, de la consommation. C'est-à-dire que c'est imaginer ce qui est tristement... Ça pourrait être une fête où on prend le temps de faire une pause quand on est dans le tourbillon du quotidien et d'aller vers son amoureux, son amoureuse pour une pause, mais en fait, ça se finit en.
C'est le saint patron des amoureux. Ouais. Voilà. Et forcément, ils ont.
Il est crucifié alors parce qu'il est aimé, ça ne fallait pas ou on ne sait pas.
Alors j'ai pas là j'ai la fête de la Saint-Valentin mais j'ai pas l'histoire de Saint-Valentin précisément.
Ben on cherchera.
Et fête devenue laïque au XXe siècle. Mais après après c'est.
Non, mais on cherchera ce qu'il a bien pu faire, parce que souvent, quand même, les saints, c'est quand même des histoires passionnantes. C'est-à-dire, il y a toujours une histoire de démembrement, ou de crucifixion, ou des trucs, histoires dramatiques à chaque fois. Donc, on va voir qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour qu'il finisse par être le saint patron des amoureux, et que finalement, je ne sais pas combien de siècles ou de millénaires plus tard, ce soit le saint patron de l'achat de lingerie affriolante, ou de parfums, ou des fleurs, ou tout comme ça.
Il y a marqué sur internet en France, les fleuristes font en ce jour de la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'il fera habituellement en une semaine. La rose représente 80% des ventes. Donc, c'est quand même, on voit l'importance ici de cette fête. Voilà.
Enfin, en même temps, les fleuristes, ils en ont plein de fêtes quand même.
Mais principalement, les roses, quand c'est 80% de la vente de la journée, c'est quand même énorme. Surtout les stocks qu'ils doivent avoir pour.
Bah ouais, puis ça qui doit être double, parce que souvent on offre une fleur à son épouse et on offre aussi une fleur à sa maîtresse, tout ça. Enfin, ça multiplie, c'est exponentiel comme truc, c'est génial.
Là, ça va un peu trop loin. Hein. Mais c'est vrai que pour offrir à tout le monde, il faut pas mal de stock.
Mais bon, là, du coup, donc, on n'est pas trop dans le créneau, nous, injonction à l'amour, à la guimauve, tout ça. Par contre, on avait une prise de son sympa grâce. À Micro Rebelle, hein, qui a eu la chance de rencontrer Sandrine, qui se passionne pour les histoires de héros et de héroïnes, alors mythologiques, comme ce sera le cas sur le son qu'on va vous proposer, mais pas que. On pense qu'on essaiera d'inviter Sandrine à une prochaine émission aussi, pourquoi pas.
Avec plaisir.
Mais elle se passionne donc pour ces héros et héroïnes, et elle réécrit leur histoire de manière érotique. Luc de Micro Rebelle a pu en faire un enregistrement et puis mettre un petit fond musical qui rehausse en plus le tout, la manière que Sandrine a de jouer en plus les textes qu'elle a écrits. Et donc, on voulait vous les proposer. Voilà.
Donc, on vous laisse avec plaisir de bouche et on revient de suite après. Voilà.
Ainsi mise en appétit et en toute logique. Nos chairs s'embrasent et brusquement, notre esprit, toujours avec un temps de retard, en conclut, ravi, qu'il y aura turlute ce soir. Les érotiques. Érotisme numéro 1, plaisir de bouche. L'œil était dans la pomme et regardait Adam. Et, à l'aube de ce dixième jour de la venue d'Ève dans le jardin d'Éden, Adam, loin d'être effrayé par l'œil divin, fixe intensément la forme de cette fente ourlée de poils. Elle lui en rappelle une autre, que lui-même observe avec curiosité depuis, disons, une dizaine de jours. L'œil qui rappelle constamment à Adam cette fente qui occupe l'entrecuisse d'Ève et l'intrigue au point de l'obséder, cligne voluptueusement en le regardant. L'iris divin brille d'une façon pas normale. Il semble à Adam que jamais auparavant il ne l'avait regardé comme ça. Et sans qu'Adam n'y prenne garde, un sentiment inconnu jusque-là monte du fond de ses tripes et va coincer sa gorge dans un grognement. Il se moque de moi, pense Adam en grinçant des dents. Je le vois dans son iris unique qui pétille. Tu feras moins le fier, se dit Adam rageusement, quand Ève croquera ton pauvre globe. Muet tu resteras. Et quand dans son ventre tu tomberas, stupide œil que tu es, tu pleureras. Ève te digérera et te rejettera sans même un battement de cils.
peut-être même tomberas-tu tout cuit et stupéfié de sa fente poilue et si délicatement parfumée et si pulpeuse et si... Subitement, pressé par un vague sentiment d'urgence, il baisse la tête et regarde la chose spéciale qui vit en bas de son ventre. À ce moment, précisément, cette chose spéciale durcit et monte comme une flèche, lui montrant la direction. Adam, suivant l'indication, lève les yeux et voit Ève perchée dans l'arbre, les jambes écartées, appuyée sur deux branches, essayant d'attraper la pomme. Et pointée par la chose, une fois de plus, la fente poilue s'expose à son regard. « Elle est libre, » pense Adam avec envie. « Elle a l'air si douce et accueillante. » Le regard tout à coup attendri, il regarde cette entrée mystérieuse qui semble lui sourire. Et, dans l'esprit pas encore tout à fait instruit d'Adam, elle paraît l'appeler, exhalant un parfum suave et légèrement acidulé qui lui fait venir dans le bas-ventre de drôles de sensations. Soudain, il n'en peut plus.
« Ève, viens !»
ordonne-t-il impatiemment, lorgnant avidement l'entrecuisse de celle-ci.
« Laisse tomber la pomme !»
Pourquoi ? S'étonne Ève. J'y étais presque, fait-elle en touchant du bout du doigt la pomme merveilleuse tant convoitée.
Viens, je te dis !
Et sous le coup d'une subite inspiration, Adam ajoute.
Il y a là un serpent qui voudrait bien te parler.
Quoi ? Ève, interloquée, s'est arrêtée et baissant les yeux, regarde Adam. Alors qu'elle passe en revue l'anatomie de ce dernier, l'étonnement dans les yeux d'Ève fait place à la curiosité. Elle descend de l'arbre souplement et, avec la décontraction du félin, elle s'approche d'Adam. « Un serpent, dis-tu, qui voudrait me parler ?» fait Ève l'œil pétillant. Oui ?» répond doucement Adam, d'un air pas tout à fait innocent. Et que me vaut l'honneur de son attention ?
Il aimerait que tu partages avec lui une certaine connaissance,
répond Adam plein d'espoir, un grand sourire aux lèvres.
Ah oui !
Et laquelle ? Fait Ève étonnée et détaillant ce serpent qu'on lui présentait.
Eh bien, je ne sais pas.
Mais il est pressé d'échanger avec ta bouche du bas. Déglutit Adam, soudainement décontenancé, se sentant bizarrement nu, alors que jusqu'ici, il ne s'en souciait guère.
Vraiment ?
Il me semble pourtant tout à fait dépourvu d'oreilles, et sa bouche à lui me paraît bien minuscule. Je me demande bien comment il serait capable d'entendre ce que ma bouche sait et de répondre en retour à ses demandes, fait Ève, en montrant la chose spéciale qui se redresse encore un peu plus, réclamant la caresse de ses doigts si habiles à attraper les branches.
« Oh !»
répond Adam un peu inquiet, en regardant cette chose qui semble avoir une vie propre et qu'il avait nommée « serpent » sans vraiment y réfléchir.
Vraiment, je me demande si... »
Ève se mouille légèrement les lèvres tout en réfléchissant. Cela finit d'affoler l'essence d'Adam qui voudrait bien commencer sérieusement à discuter et qui se tend vers Ève comme une jeune pousse vers le soleil, avide de chaleur et de lumière. Ève, tout en soupirant, lève des yeux mélancoliques vers la pomme qu'elle a bien l'intention de manger. J'ai envie de savoir ce qu'elle sait, se dit Ève. Dieu prétend qu'elle renferme toute la connaissance. Mais la connaissance de quoi ? Peut-être que c'est important. Essentiel même. Non mais vraiment, ce serpent m'intrigue. S'aperçoit-elle soudain, en sentant avec étonnement sa grande bouche du bas s'humidifier. Elle se tourne alors vers Adam et le regardant intensément, elle semble osciller entre la méfiance et la curiosité. Voyons, se décide Ève. Au bout d'un moment, qu'Adam trouve douloureusement long. Et Ève, prenant la main de ce dernier, ajoute « De quel genre de conversation ce serpent peut bien vouloir m'entretenir ? Hein ?
Fichtre ! » pense Adam un peu troublé. Cracher, il sait, mais parler...
Pourtant, excité comme une puce et sans plus de tergiversation, son serpent turgescent le précédent, Adam se presse auprès d'Ève qui, lassivement, s'allonge et s'installe confortablement pour la discussion. Écartant les jambes, elle ouvre une grande bouche légèrement humide de laquelle dépasse une adorable petite langue qu'Adam, jusqu'ici, n'avait jamais remarquée et qui lui fait chavirer l'esprit.
Et je peux bien faire attendre un peu ce serpent crachoteur. Cette bouche délicate fait venir l'eau à la mienne et ma langue aspire à goûter à la sienne.
Se dit Adam, la bouche humide et excité de déguster à cette nouveauté. Il plonge alors sa tête avec délice et fougue dans l'entrejambe d'Ève qui ne se fait pas prier et débat bientôt follement avec cette langue qui l'attire tant.
Quel con ! Mais quel con ! S'écrie Adam au bord de l'extase, aspirant avidement le nectar qui coule doucement de la bouche, enfin accessible et délicatement gonflé. La succion insatiable et délicieuse dans laquelle il met tout son cœur fait bientôt chanter Ève. Ah, 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 ah. La note est si extatique qu'elle en fait tomber la pomme. Cette dernière roule jusqu'au couple enlacé. L'œil y étant toujours, se rince à lui-même avec bonheur à la vue des ébats débridés. Et, absorbé qu'il était, il ne voit pas arriver les dents qui le croquent en même temps que la pomme, car Ève, à présent au courant du plaisir que sa grande bouche peut donner, a l'insatiable besoin d'en connaître tout, absolument tout. Elle espère que c'est exactement ce que lui révélera la pomme et la mange goulûment entre deux intenses cris de plaisir. Ah !
Croque !
Ah !
Croque !
Oh ! Oh !
Adam, ayant ouvert, comme Ève, les portes du plaisir, s'en réjouit et laisse bientôt la main à sa partenaire qui semble soudain savoir ce qu'il faut faire de ce serpent turgescent qui vit au creux de son entrejambe. Puis, caresser, sucer, lécher, malaxer, bref, les prémices par tous les bouts exploités, ils en viennent à ce que le serpent ainsi excité avait dès le début innocemment suggéré. Fort des connaissances d'Ève croquées dans la pomme, le serpent à la grande bouche se parle avec tant de sincérité et de confiance qu'il découvre sans peine la jouissance des orgasmes répétés. Ils en explorent tant et si bien toutes les possibilités que la voix rauque d'Adam rejoint bientôt les vocalises de sa fougueuse amante. Le chant du rut alors résonne partout dans le jardin d'Éden. Le plaisir qu'il suggère est si intense qu'il affole et fait venir l'envie à tous les êtres vivants, végétaux comme animaux. Et à force de tentations créant des frustrations à tout le jardin d'Éden, Ève et son amant, bien loin d'être chassés du paradis originel, se retrouvent par la force de leurs chants orgasmiques isolés. Car c'est le paradis qui, dans l'impossibilité d'atteindre lui-même à tant de volupté, s'enfuit en courant, proprement désespéré. C'est pourquoi, depuis, on accuse l'homme d'être un égoïste, vu qu'il continue à jouir seul des plaisirs de la chair, amplifiés de la connaissance divine et orgasmique. C'est un scandale, il faut bien en convenir. Mais, chers auditeurs, quand vous penserez à l'avenir, au sacrilège de la pomme et à l'histoire du serpent tentateur, rappelez-vous que ces fantasmatiques ancêtres, que vous méprisez peut-être, nous ont tous permis de vivre, avec délices et créativité, une activité qui sans cela nous ennuierait sûrement. Et dites-vous bien que la pomme ne renfermait rien d'autre que la connaissance de la vie, que certains, dans leurs frustrations idiotes, voudraient nous retirer. Alors je lève mon stylo à Ève et Adam, ces héros de l'amour. À Ève, qui accepta la conversation du plaisir et croqua dans la pomme pour nourrir de toute la connaissance divine ses ébats amoureux, et à Adam, qui la suivit et le lui rendit si bien. Il serait sacrilège, vous en conviendrez, de ne pas leur rendre jusqu'à la fin, et chaque fois que c'est possible, un hommage vocal et jouissif. Bébé ou pas bébé à la clé. Ce n'est pas Dieu qui s'en soucie, il me semble. Pourquoi donc aurait-il inventé le plaisir autrement? Et encore moins, je crois bien, à lui de décider. Sans nous, de notre descendance, si nous pouvons la maîtriser. C'est d'ailleurs sûrement pour ça, j'imagine, qu'il avait laissé la pomme, espérant sans doute qu'elle serait mangée pour permettre à nos esprits d'aimer ses œuvres d'os et de chair dont il nous a affublés. Ne pouvant espérer qu'on apprécie sa création foisonnante sans un petit coup de main, il a pris soin de donner à chacun la possibilité de multiplier les occasions de l'expérimenter. Il serait donc absurde de croire qu'il nous voudrait à sexualité réduite et à usage modéré. Du moment que le plaisir soit partagé. Donc, à vos bouches, mains, serpents, grandes langues et petites langues, et que tout cela se mêle et s'en mêle entre Ève ou entre Adam et Ève. Surtout, ne cessez jamais de les aimer et de les remercier, car ils sont dans cette vie, pour votre bonheur, vos meilleurs alliés.
De retour sur le gang des hystéries. Alors, qu'avez-vous pensé de ces petits plaisirs de bouche?
Ah ben, on remercie bien Sandrine. Hein,
merci Sandrine, ouais.
On la remercie bien pour le texte. Et puis oui, effectivement, ça donne plein d'idées de choses gratuites à faire, tiens, pour la Saint-Valentin.
C'est sûr que ça...
Hein, voilà, c'est clair. Ça me rappelle, je trouve... quand on se penche sur l'histoire d'Adam et Ève, régulièrement, on a comme une grosse impression de naïveté vis-à-vis d'Adam. Je repense à quand on avait fait la chronique badass sur Lilith, notamment. Et, ouais. Et il y avait vraiment cette idée de avec Ève, du fait qu'effectivement, celle qui croque dans la pomme parce qu'elle veut la connaissance, puisque lui, il reste bené dans son coin. Donc, je trouve que Sandrine reprend un peu la même figure. C'est étonnant. Et puis, si je voulais revenir au cas où, si c'était peut-être pas clair pour... c'est peut-être pas clair pour tout le monde.
Mais vaut mieux expliciter, vas-y.
Vaut mieux expliciter quand Adam se plonge dans le sexe de Ève et qu'il crie « Ah, quel con !» Ça peut surprendre, parce que maintenant, « quel con !» c'est vraiment devenu juste une insulte.
Oui.
Et « le con » n'est plus qu'une insulte, alors que effectivement, non, c'est la manière de désigner le sexe de la femme, plus particulièrement le vagin, en tout cas, ou l'entrée du vagin. Et donc, c'est pour ça qu'il s'exclame comme ça quand il le goûte et qu'il le découvre. Et non pas une insulte à lui-même. Mais ça s'est vraiment perdu.
C'est assez
rare qu'on sache d'où vient ça, vient le mot con, effectivement. Voilà, voilà.
Donc effectivement, quand vous vous dites « je suis qu'un con », en gros, vous vous dites « je suis qu'une chatte ». Mais C'est un peu grossier, mais
voilà,
c'est
une insulte. Et voilà, c'est encore un truc de sexisme ordinaire.
Tout à fait.
Effectivement, n'être qu'une vulve, ça peut être beaucoup. Non, on va dire non. Voilà, nous, on peut le dire, nous ne sommes qu'une je ne suis qu'une conne, mais c'est très bien.
ça marche.
Voilà. Et je voulais revenir un peu sur l'histoire de Saint-Valentin, parce que j'ai jeté un coup d'œil.
Alors, vas-y, dis-nous.
Voilà, en fait, Valentin était un prêtre du chrétien au début du christianisme, dans l'époque où ce n'était pas facile d'être chrétien, puisqu'il n'était donc pas dominant et hégémonique. Il était bien une minorité oppressée par les souverains de l'époque, alors romains, qui étaient plutôt païens, ou alors selon les territoires où ils se trouvaient, païens également, mais peut-être d'autres en dehors de l'Empire romain. Et donc Valentin, il y a Valentin de Terni, qui était un prêtre du 3e siècle après Jésus-Christ, donc 200 et des brouettes, qui mariait les gens sous les vœux chrétiens, donc jusque-là rien d'extraordinaire. Sauf que l'empereur de l'époque, Claude II, le gothique, donc déjà d'une, n'aimait pas les chrétiens. Voilà,
ça s'est fait.
Les aider. Mais en plus, avait besoin de chair à canon, avait besoin d'hommes pour aller à la guerre. Et donc, ne voulait pas qu'on puisse continuer de célébrer des mariages qui pourraient empêcher les hommes de partir à la guerre. Parce que probablement, quand on est marié, on a des enfants, ou on doit y rester pour cultiver la terre, ou ce genre de choses. Et donc, quand je dis que toutes ces histoires de saints, elles ont toujours des trucs un peu réjouissants, tout ça. Donc, le Valentin, il est martyr, puisqu'il a été décapité. Alors, d'abord, il est roué de coups, quand même.
D'accord.
C'est pas drôle.
Juste perdre la tête, mais pourquoi ?
Voilà, trop rapide. Donc, roué de coups par les légionnaires romains et décapité sur la voie Flaminia. Mais bon, j'ai pas eu le temps de vérifier ce qu'était. Je ne suis pas assez cultivée pour savoir ce qu'était la voie Flaminia. On vérifiera. Donc, en 269. Et ça coïncidait à une fête païenne, d'ailleurs, tac, une pierre de coup, bim, ça honorait d'autres dieux. Et c'est quand même plus tard où les papes vont donc c'est au 6e siècle,
le canoniser,
où on fixe la date du 14 février comme une journée de célébration de trois saints martyrs, donc appelés Valentin, dont le Valentin de Terni. C'est plutôt au 15e siècle qu'on lui donne le titre de patron des amoureux. Et après, c'est évidemment au 20e siècle, le siècle d'explosion du capitalisme, et que donc le capitalisme se cherche des voies pour maintenir son existence. Et une des voies, donc la voie majeure, c'est la consommation. Et donc, il faut trouver différentes techniques de consommation. Et les fêtes de ce type en sont une. Et donc, grosse récupération de Saint-Valentin. Voilà.
Moi, je veux juste souligner qu'il est mort en 269. Mais à part ça...
Ah, oui. Il a bien cherché. Voilà.
Ok, très bien. Est-ce qu'on nous passons à la suite ?
Eh bien, bien sûr.
Alors,
qu'est-ce que tu veux bien nous proposer ?
Ah ben, je pique ta place pour aujourd'hui.
Ah.
Chronique badass.
Get away from her, you bitch !
Réveillez-vous, les filles ! On va laisser les hommes sauver l'univers ?
Dodge this.
Donc, c'est moi aujourd'hui qui vous parle de femmes exceptionnelles qui ne sont pas assez mises en avant ou tout simplement pas connues. C'est, je rappelle, le principe de la chronique badass. Alors, en tant qu'homme de science, je me suis toujours posé la question sur les fameux oui-dire des découvertes de certains hommes scientifiques qui, d'après ces fameux oui-dire, étaient en fait celles de leurs épouses ou de leurs compagnes, mais pour des raisons de mœurs, d'époque ou d'ego tout simplement, leur mari leur avait volé et récupérant ainsi toute la gloire et les prix qui allaient avec. Je remercie le joli article de Mister Mondialisation qu'on vous mettra en lien sur la page de Micro Rebelle. qui m'a appris qu'en fait, le 11 février dernier, c'est la Journée internationale des femmes et des filles de science. Qu'est-ce donc ? C'est l'ONU qui a créé cette Journée internationale pour que les femmes dans le monde de la science soient plus représentées ou en tout cas plus connues, et ainsi promouvoir les sciences auprès des filles qui souhaiteraient en faire leur métier, sans qu'on leur dise « ben les sciences, c'est pas pour les filles ». Avant de revenir là-dessus, petit rappel au niveau statistique. Bon, c'est la partie des chiffres un peu chiante, mais on va quand même faire un petit topo là-dessus. C'est une étude qui a été menée sur 14 pays différents sur le diplôme de fin de secondaire, donc l'équivalent du baccalauréat dans ces pays-là. Et en fait, dans ces 14 pays, il y a 37% de garçons qui ont des chances d'avoir ce fameux diplôme dans le domaine scientifique, alors qu'il y a uniquement 18% des filles qui ont des chances d'avoir ce diplôme en domaine scientifique. Et alors, quand on passe dans le supérieur, là, je ne vous raconte même pas la catastrophe, les garçons, on passe à 18% de chances d'avoir un master scientifique, 8% seulement des filles. Alors, et le doctorat, il y a 6% des garçons et 2 tout petits pourcents des filles qui ont une chance d'avoir un doctorat en sciences. Donc, c'est vraiment rien du tout.
Et les 14 pays, c'est Europe, États-Unis, est-ce que c'est l'Occident ?
Il n'y a pas marqué, je pense que ça doit être des pays du Nord, avec un grand N.
Ouais.
Pour revenir sur la France, au niveau des chances d'avoir un bac, on va dire en général, ce sont quand même les filles qui sont qui réussissent le plus. Il y a 70% des filles qui réussissent le baccalauréat contre 59% de garçons. Mais par contre, il n'y a que 18% des filles qui vont vers des études d'ingénieur, donc en sciences, contre 42% des garçons. Donc on voit bien qu'en général, les filles sont très minoritaires là-dessus. Cependant, il y a une étude aussi qui rappelle que le cerveau humain n'est pas sexué, je ne sais pas comment on devrait dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cerveau pour les filles, un cerveau pour les garçons. C'est
non,
vraiment le même.
On n'a pas le gène de la voiture et le gène du ménage. C'est étonnant.
Alors là, tu confonds génétique et cerveau. C'est pas pareil, attention.
Merci.
Là, le cerveau, on explique bien que c'est l'influence de la société avec un grand S, c'est-à-dire les relations sociales, la famille, les cultures, les publicités qui forment le cerveau. Donc on en a déjà parlé. Il n'y a pas de métier en rapport avec le sexe de la personne. Il n'y a que des personnes à l'esprit étriqué, pour ne pas dire autre chose, qui catégorisent encore les métiers en fonction du sexe qu'il fera le mieux. Donc c'est pour ça que je voudrais revenir sur ces femmes en sciences. Alors là, j'en ai pris une dans toute la grande liste que l'article nous proposait. C'est Elizabeth Blackwell. Alors, qui est cette femme ? C'est tout simplement la première femme qui a reçu un diplôme de médecine aux États-Unis et qui a été la première à être inscrite à l'ordre des médecins en Angleterre aussi. Donc, tout ça commence en 1821 à Bristol, donc en Grande-Bretagne, où Elisabeth est la troisième d'une fratrie de 9 enfants. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Le père est raffineur de sucre et bizarrement, la mère, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. On ne sait pas si elle travaille ou pas. Il y a aussi les 4 tantes qui vivent sous le même toit. Donc, ça fait quand même une famille nombreuse sous la même maison. On dit que sur Internet, son enfance est plutôt heureuse parce que le papa, Samuel Blackwell, donc qui est raffineur de sucre, c'est un homme qui est assez progressif pour son époque, c'est-à-dire que dans l'éducation des enfants, il est convaincu que chaque enfant doit avoir un cadre propice à ses propres talents. Donc il développe bien, en fonction des 9 enfants qu'il a, ils ont des cours particuliers. Donc c'est quand même pour Elisabeth et ses frères et sœurs, c'est quand même pas mal au beau milieu du 19e siècle. Le problème, c'est que vers 1830, il y a plusieurs événements qui posent problème en Grande-Bretagne. Donc, par exemple, des émeutes à Bristol, donc là où vit la petite famille, et une belle épidémie de choléra. Donc, la famille tente de quitter la Grande-Bretagne pour aller tenter leur chance aux États-Unis. Et à cette époque, Elisabeth n'a que 11 ans. Donc, une fois arrivé là-bas, papa Blackwell reprend son travail de raffineur. Il travaille dans une raffinerie qu'il crée à New York. Et en même temps, il rentre en tant que membre actif des réformistes de l'époque avec des leaders abolitionnistes. Et suite à ça, toute la petite famille est un peu contaminée par cette idée-là. Et donc, on va avoir des signes de contestation qui vont commencer à se faire. Les enfants sont très militants pour le coup. Et une des actions de la fratrie, c'est que Elisabeth et ses frères et sœurs ne vont plus consommer de sucre pour contester le commerce des esclaves qui se faisait à l'époque. Par contre, au début, ça allait bien, mais en 1836, malheureusement, les affaires vont mal et donc toute la famille décide de déménager de New York à Cincinnati dans l'Ohio. Et Papa Bakwell voulait continuer de faire de la raffinerie de sucre, mais cette fois-ci plus à partir de sucre de canne, mais à partir de betteraves sucrières qui étaient moralement mieux à l'époque. Sauf que malheureusement, 3 semaines après leur arrivée, une maladie foudroyante emporte Papa Bakwell et il laisse femme, enfant et dette dans l'Ohio. Bon, c'est un peu la panade, mais Elisabeth et ses deux sœurs aînées, Anna et Marianne, vont créer une école qui s'appelle la Cincinnati English and French Academy for Young Ladies. Donc elles proposent des cours aux jeunes filles, mais leurs cours et l'internat sont payants pour pouvoir se faire un petit pécule à la fin du mois. Le problème, c'est que Elisabeth va commencer à se rapprocher d'une église qu'on appelle l'église unitarienne. Alors qu'est-ce que l'unitarisme ? C'est une église qui prône que Dieu est dans un seul esprit et donc s'oppose au trinitarisme, donc la Sainte Trinité où il y aurait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, à cause de ça, Cincinnati est une ville qui est très conservatrice donc, dans les années 1830-1840. Et donc, ça ne plaît pas du tout à la population. Et donc, les enfants sont retirés de l'école d'Elisabeth. Et donc, l'école doit fermer en 1842. Donc, pendant ces années, en même temps, vu que Cincinnati est très conservateur, tout son militantisme sur l'émancipation des esclaves est mis à mal. Suite à la fermeture de son école, elle va quand même essayer d'enseigner dans le Kentucky, donc un état voisin, mais ça lui plaît pas du tout, même si les élèves sont très bien, parce que elle est confrontée à la réalité très concrète de l'esclavage. Les populations sont si étriquées spirituellement, la société est tellement rigide qu'en fait tout ça lui semble absurde, et donc elle retourne à Cincinnati et elle veut avoir plus de sens à sa vie. Elle se demande comment faire pour arranger tout ça et aller un peu plus loin. Et c'est suite à une amie on parle d'un cancer de l'utérus d'une de ses amies qui a déclenché chez Elisabeth Blackwell la première fois envie de travailler dans la médecine. Son amie lui a dit que si ça avait été une femme médecin qui avait pris son traitement en charge, elle aurait été plus confiante et mieux suivie dans son traitement. Et Elisabeth acquiesce et elle est convaincue aussi que les femmes ont des qualités qui sont adaptées à la profession médicale. En plus, à l'époque, quand on parlait de femmes médecins, c'était pour désigner ce qu'on appelle des faiseuses d'anges, tout simplement des personnes qui n'étaient pas médecin, mais spécialisé dans des avortements de l'époque. Donc, on faisait avec des moyens de bord pour faire avorter les personnes. Et donc, Elisabeth Blackwell, elle ne voulait pas que ce terme de femme restin reste pour ces personnes qui, en plus, ne sont même pas médecins. Et elle voulait vraiment rendre justice à ce que les femmes sont capables de faire. Par contre, elle va avoir deux petits problèmes. Déjà, un, c'est quand même une société et un monde très patriarcal. On est au 19e siècle. Et en plus, comment faire pour financer ce nombre d'années d'études qui coûtait à l'époque 3 000 $. Donc, au 19e, c'était pas mal d'argent. Tout simplement, plus tard, elle recherche encore du boulot. Elle est enseignante cette fois-ci en Caroline du Nord et elle loge chez le directeur de l'école, qui est un révérend, le révérend John Dixon, et qui a été auparavant médecin. Donc, en plus d'enseigner, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté pour ses études, elle a accès à une bibliothèque privée d'un ancien médecin, donc elle a accès à de quoi se documenter sur la médecine. Et en plus, c'est beaucoup plus calme pour elle dans cette période-là, donc elle continue ses activités militantes pour la lutte abolitionniste avec certains de ses frères et aussi certaines de ses belles-sœurs qui vont être des figures de proue du féminisme aux États-Unis. Donc, elle économise jusqu'en 1846, mais même avec le soutien du révérend, qui, je rappelle, était un ancien médecin, elle a de nombreux refus d'écoles de médecine en Caroline du Nord, et donc elle décide de retourner à Philadelphie et New York pour tenter sa chance là-bas. Elle reçoit beaucoup de refus de grandes facultés américaines, et elle obtient enfin une place dans une école de New York qui s'appelle la Hobart & William Smith College. Alors, je rappelle, collège, c'est les facultés aux États-Unis. Elle a quand même eu 19 reçus avant ça. Donc, niveau ténacité, je pense qu'elle est au top ici. 3 ans plus tard, en 1849, elle termine major de promo et devient donc la première femme à obtenir son diplôme de médecine aux États-Unis, malgré les préjugés des professeurs et des étudiants. Mais vous inquiétez pas, le calvaire ne s'arrête pas là, sinon ça serait pas drôle. Aucun hôpital n'accepte d'avoir une femme médecin. Elle est obligée d'attendre 1953 et elle est obligée donc elle-même de fonder son hôpital pour femmes et enfants à New York. Suite à ça, elle crée aussi une école d'infirmières suite à la première guerre qui éclate aux États-Unis. Enfin, une des guerres qui éclate aux États-Unis. Et enfin, en 1868, elle construit une école qui est destinée à la formation des femmes médecins aux États-Unis. Donc, on est quand même quasiment 20 ans après qu'elle ait fini son, qu'elle ait eu son diplôme. En 1869, elle laisse à une de ses sœurs la responsabilité de l'université et elle retourne en Angleterre. Là, elle va ouvrir l'école de médecine pour femmes et elle devient la première femme médecin enregistrée en Grande-Bretagne. Elle prend sa retraite à l'âge de 86 ans, en sachant qu'elle est morte à l'âge de 99 ans. Et, petit point drôle, elle a publié en Angleterre un guide qui s'appelle « The Moral Education of the Young » et qui est un guide d'éducation sexuelle. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Mademoiselle Elizabeth Blackwell. Alors, la liste est longue sur toutes les femmes en sciences qui ont créé, qui ont découvert des choses. Donc là, c'était la première femme médecin aux États-Unis et en Angleterre. J'espère avoir l'occasion de vous faire présenter une autre femme
Ça pourrait même être l'objet d'une émission du gang sur l'invisibilisation des femmes dans les sciences, par exemple.
Tout à fait.
On pourrait se proposer.
Oui, on peut très bien prévoir ça pour la prochaine fois.
Moi, j'avais une question, du coup. Oui. Est-ce qu'on connaît la couleur de la famille, la couleur de peau de la famille Blackwell?
De ce que j'ai vu des photos, c'était blanc. Hein.
Ouais, c'est interpellant, du coup, sur cette famille-là. Ça aurait été sympa d'avoir... plus de détails, pas là pendant la chronique, hein, mais dire s'il y a une réelle biographie et tout qui est faite, voir comment ces ouvriers et ouvrières arrivent aux États-Unis.
Il y a encore mieux, il y a son autobiographie, Pioneer Working of Opening the Medical Profession to Women. Donc comment ouvrir la voie aux femmes dans la profession médicale.
Mais je pense au fait qu'ils arrivent aux États-Unis et qu'ils tombent direct sur une convergence et une... Il se jette dans les luttes pour l'abolition de l'esclavage. Je trouve ça assez... Enfin, faut le noter.
En arrêtant de consommer du sucre.
Ouais. Donc, pour un raffineur de sucre...
Il a quand même continué son activité en disant « Moi, je n'en mange plus. » Donc, c'était quand même pas mal.
Et de bien comprendre, du coup, notre mode de consommation implique une mode d'exploitation... des humains ou des animaux ou de la terre. Hein. Voilà, c'est des choses dont on essaye de faire paraître maintenant aujourd'hui avec ce consumérisme qui est exponentiel, hein, je pense, comparé à la fin du 19e. Et je voulais revenir sur l'histoire de femmes médecins, en fait, sur le fait qu'il y avait... femmes médecins à l'époque, ça voulait dire avorteuse.
Ouais. Faiseuse d'anges.
Voilà, mais... c'est-à-dire que pour l'histoire, il faut imaginer que le savoir médical, il est ancestral chez les femmes, mais courant 18-19e, il a été récupéré et spolié par un mouvement scientifique qui fait que les hommes se sont intéressés à la science et aux soins, et donc ont récupéré ce savoir, ces compétences-là, en excluant les femmes. C'est un peu en lien aussi avec l'utilisation des bienfaits de la terre, des plantes ou autres, qui était un savoir féminin et qu'on a souvent confondu avec les sorcières. Et donc souvent accuser les femmes qui étaient en mesure de soigner ses congénères de sorcellerie. Puis les hommes récupèrent effectivement le savoir scientifique, sauf dans ce qui ne les intéresse pas. Et donc on est sous un régime patriarcal, donc l'avortement, c'est pas glamour. J'ai envie de dire tristement, engrosser les nanas, ça n'a jamais posé de soucis à aucun de ces décideurs Ça fait écho à ce qui se passe un peu aujourd'hui aux États-Unis, hein, où, voilà, hein, où le président américain se permet même d'aller faire une marche avec les anti-choix. Je serais très curieuse dans une biographie qu'on fasse apparaître le nombre d'avortements que ce monsieur a pu provoquer chez toutes les femmes à qui il a attrapé la chatte, comme il le dit si bien lui-même. Hein.
C'est glamour.
Voilà, oui, c'est glamour. Mais et je voulais... du coup, placer juste le fait qu'il y a un super bouquin hein, qui s'intitule « Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes » donc par Deirdre English et Barbara Ehrenreich, que je vous invite à lire, et qui reprend effectivement ces savoirs féminins. Et donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, femmes médecins, ça voulait supposément uniquement dire les faiseuses d'anges, mais parce que d'une, les hommes ont kidnappé le savoir médical des femmes, et de deux, ils ne s'y sont pas collés à l'avortement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est resté longtemps une affaire de solidarité féminine. Et juste aussi pour l'anecdote, sur la peur de femmes médecins, c'est quelque chose qui a dû être... ce serait intéressant qu'on puisse faire écho de parcours de femmes médecins, parce que ça n'a pas dû être facile, mais sans jeter la pierre à ceux qui pouvaient avoir peur. C'est-à-dire qu'il est question de représentation. Quand on n'a jamais vu une femme avoir tel ou tel type d'activité, ça peut surprendre, ça peut interpeller, ça peut poser question. Je pense à un monsieur... qui était en parcours de migration et qui s'est grièvement blessé du fait des politiques répressives aux frontières et qui a dû être accompagné à l'hôpital. Et le temps que je gère des papiers et tout, pendant quelques minutes, je ne l'ai pas regardé, enfin, j'avais pas l'intention de le surveiller en même temps, et il s'est échappé quand il a compris, j'ai su après plus tard, j'ai pas compris pourquoi il s'était échappé, et ensuite, il est revenu vers moi en me posant beaucoup de questions, c'est-à-dire ce qu'il avait plongé dans l'effroi, un effroi complètement sincère, et c'était que le docteur qui était venu le voir était une femme. Et lui qui descendait d'une montagne afghane dans lesquelles les écoles sont interdites aux filles, aux femmes, à part enfanter et faire la cuisine et laver le linge, rien n'est permis aux femmes dans certaines contrées rurales de l'Afghanistan. C'était pour lui... absolument effrayant d'imaginer que ces créatures que lui imagine être capable que d'enfanter et de faire la vaisselle et voilà, puissent lui ouvrir le corps sans le tuer et puis réparer quelque chose en lui. Enfin voilà, ça avait plongé dans l'effroi. Et donc pour dire qu'il est possible, effectivement, c'est tout un travail sur les représentations et que ce que Elisabeth a pu vivre de frein et de violence masculiniste et institutionnelle, on continue de les voir perdurer encore, pas nécessairement dans des contrées très éloignées des nôtres. Il n'y a qu'à se promener dans un lycée professionnel pour s'apercevoir à quel point les métiers ne sont pas du tout mixtes et qu'on conçoit encore les métiers comme ayant un sexe, effectivement, dans la France du 21e siècle.
Ben, c'est l'heure maintenant de nous quitter, déjà. Donc, merci Lily, merci Simon. Et on vous dit au mois prochain.
Au mois prochain. Ciao, ciao.
Salut.
Au revoir.
Le gang des hystériques. Le gang. Bim.